Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui cinq auteurs qui n'ont pas hésité à partir loin pour envisager les galaxies. Nous allons parler avec eux de space opéra, puisque ce sont des domaines dans lesquels ils ont tous produit de grands voyages. Donc, je vais commencer par vous les présenter très rapidement. À ma gauche, Victor Dixen, auteur jeunesse, qui a été abondamment primé puisqu'il a eu deux fois le Grand Prix de l'Imaginaire Jeunesse. Il a été coup de cœur 2014 des Imaginales. Il a écrit une tétralogie, le cas Jack Spark. Et je pense qu'avec lui, on parlera aussi de son tout nouveau roman, Phobos, qui est le début d'un cycle qui s'appelle L'Éphémère. Il nous en dira sûrement un petit peu. À côté de lui, Loïc Henry. Lui aussi, coup de cœur des Imaginales, prix Imaginal des lycéens en 2014 pour le roman qu'il a fait connaître, Loar, dont il présente aussi au jour de, à ses Imaginales, il présente une novella qui se situe dans le même univers, Eros et Thanatos, peut-être que tu peux le montrer pour ceux qui ne l'auraient pas vu aux éditions Griffes d'encre, donc une préquelle dans le même univers. À côté, notre femme du space opéra, Laurence Sunner, qui a été dessinatrice, auteure, qui a travaillé dans le domaine de la bande dessinée, du jeu vidéo, et qui a écrit une très belle trilogie, dont le dernier volume sort, est arrivé cette semaine, je crois, il est vraiment tout neuf. Origine, qui clôt la trilogie Quantica, dont elle va nous parler. À côté de Laurence Sunner, Christian Léhourier, qui a écrit des choses diverses, à la fois dans le domaine de la science-fiction et des récits historiques, qui est d'ailleurs, à côté de son activité d'auteur, directeur d'une collection jeunesse, Les Romans de la Mémoire, mais avec qui nous allons parler ici d'un grand cycle de space opéra, le cycle de Lammeur, qui a été plusieurs fois réédité, qui à l'occasion d'une de ses rééditions, qui lui a donné l'occasion d'être complètement rassemblé, a eu le prix spécial du Grand Prix de l'Imaginaire en 2013. Et enfin, tout au bout, celui qu'on ne présente pas, parce que tout le monde le connaît, c'est un des auteurs majeurs de l'imaginaire en France, Pierre Bordage, qui est un auteur prolifique. Vous comprendrez que je ne citerai pas toute sa production. Je vais juste vous dire, allez regarder sa bibliographie sur le site des Imaginales. Elle fait 72 pages. mais avec Pierre ici, on va mettre l'accent sur ce qu'il a fait dans le domaine du space opéra. Et ça laisse encore pas mal de choses dont nous pouvons parler. Nous pourrions parler des guerriers du silence, nous pourrions parler de la fraternité du Panka. Je pense qu'on va peut-être surtout parler de Gigante, le dernier, qui est un univers que vous avez produit avec Alain Grousset. Voilà, donc on va commencer à faire connaissance avec eux en les faisant un petit peu parler de leur space opéra et peut-être en commençant par leur demander en quoi le space opéra leur a permis de réaliser un projet qui leur convenait, qu'est-ce que ça leur donnait comme possibilité. Alors je vais commencer par Victor Dixen, je vous en dis un peu plus à son sujet, c'est logique peut-être qu'il s'intéresse au space opéra parce que c'est un grand voyageur. Père danois, mère française, il a vécu aux États-Unis, il a vécu à Dublin et actuellement il vit à Singapour et il vient à Épinal pour nous dire bonjour. Donc, dans le cas de Jack Spark est un jeune insomniaque de 15 ans, différent. Est-ce que c'est vous et pourquoi vous avez voulu lui offrir un univers aussi vaste?
Moi-même, effectivement, je dors peu, donc sans doute je me suis inspiré de mon expérience pour créer le personnage de Jack Spark, qui a cette particularité de dormir uniquement quelques heures par nuit. Et c'est pour cette raison que ses parents l'envoient, après avoir essayé tout un tas de thérapies, dans un camp de rééducation pour adolescents difficiles, où on prétend soigner toutes les pathologies, y compris la sienne. Mais les pratiques, les thérapies qui sont pratiquées dans ce camp vont avoir chez lui des effets insoupçonnés. révéler des mutations cachées qui sont peut-être à l'origine de son problème. Alors là, on n'est pas dans le space opéra, on est plus dans du fantastique ou dans de la fantaisie urbaine, mais c'était mon premier livre, Le cas de Jack Spark.
Et le space opéra, vous intéresse quand même?
Oui, ça me passionne. Oui, ça m'intéresse, le space opéra. Dans le cadre de Phobos, il s'agit de la conquête spatiale. Pas du space opéra au sens où on se projetterait dans un passé, dans un futur, excusez-moi, je suis un petit peu décalé encore, dans un futur très lointain avec des empires galactiques. J'ai essayé plutôt de me mettre juste demain matin, c'est-à-dire lorsque la conquête de la planète Mars sera possible, et on sait aujourd'hui techniquement qu'elle l'est. La NASA projette d'envoyer des hommes sur Mars dans les années 2030, ils viennent d'en faire l'annonce. Des sociétés privées s'engagent à le faire même avant, en passant par exemple par la télé-réalité pour financer ces voyages jusqu'à Mars. Et ça m'a subjugué, ça m'a intéressé, surtout lorsque j'ai réalisé que 200 000 personnes du monde entier avaient postulé au programme Mars One, qui est donc un programme, une société néerlandaise qui entend envoyer des gens sur Mars grâce à la télé-réalité, comme je le disais, mais en aller simple. Parce qu'on n'a pas les moyens de les faire revenir, financièrement d'une part, et même techniquement, on n'est pas capable aujourd'hui de faire décoller à nouveau une fusée qui se serait posée sur Mars, de s'extraire du champ gravitationnel de Mars. Et 200 000 personnes du monde entier ont signé pour partir en aller simple, en abandonnant tout derrière eux, leur famille, leurs souvenirs, tout, avec la certitude qu'ils ne reviendront jamais. Et ça, moi, ça m'a interpellé et ça a donné naissance à ce roman Phobos.
Bon, voilà le vrai sens du voyage. Je crois que Loïc Henry, là aussi, breton, qui a vécu en Angleterre, qui a vécu à Hong Kong, qui est revenu à Paris, encore un voyageur. Loïc Henry fait quelque chose d'assez peu courant, c'est qu'il écrit à la fois en français et en anglais. J'ai vu que vous avez écrit des nouvelles qui ont été publiées en Australie, ce qui n'est pas très courant et qui implique une grande maîtrise de deux langues différentes. Donc, Loar, un vaste univers à prolonger, c'est quoi Loar?
Alors, stricto sensu, Loar, c'est une planète. C'est en effet un roman de space opéra qui se déroule dans un futur très lointain, j'ai envie de dire un petit peu comme tous les space opéras. L'intrigue se passe à l'orée d'un conflit, c'est-à-dire qu'on est à un moment on est à un moment où on sait que les différentes puissances de Loar vont s'affronter pour certaines, s'allier pour d'autres. Maintenant, ce conflit, c'est plus un prétexte, c'est plus une façon aussi de s'assurer que les interactions ont lieu entre les différentes planètes, les différents mondes. C'est pas le thème central du livre. Et ensuite, c'est un roman, j'ai envie de dire, un peu puzzle, qui se déroule suivant les chapitres à un endroit, puis un autre, puis un troisième, ainsi de suite, et où les intrigues qu'on peut amorcer sur une planète se dénouent sur une autre, 50, 60, 70 pages plus loin. Il faut voir ça un petit peu comme un buisson qui part avec des branches qui se séparent et qui se recompose à la fois au fil du livre et pour le dénouement où en théorie le lecteur si ça a bien fonctionné doit être un petit peu emmené de tous les côtés et surpris à la fin. Maintenant, pour le monde, c'est un monde en effet qui est projeté, donc qui est vraiment très lointain par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Donc, ce qui implique, mais ça, je pense que ça va être une constante de à peu près tous les space opéras, ça implique en fait. Alors, j'ai coutume de dire que c'est une grosse contrainte et c'est une énorme chance. La grosse contrainte, c'est qu'on est obligé de construire quelque part un monde, enfin une série de mondes, qui a une certaine cohérence, à la fois une cohérence en termes d'organisation elle-même, économique, politique, sociétale, ainsi de suite. Et puis ensuite une cohérence dans les interactions entre ces différents mondes. Parce que le lecteur, quand il est dans un livre, quel qu'il soit, quelque part, il signe une espèce de charte en disant « Ok, j'accepte de dire banco pour un certain nombre de choses qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. » Mais je ne veux pas être sorti de ma lecture ou de mon rêve par quelque chose d'incohérent, entre guillemets. Donc ça implique une contrainte quand même assez forte, parce que ça implique de pas le stopper net en disant non mais là ça n'a pas de sens par rapport à l'organisation du monde qui a été décrite dans les 20, les 30, les 40 pages qui précèdent. Donc ça c'est la contrainte. La chance énorme, c'est ensuite que on peut construire à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que on peut imaginer des voyages lointains, on peut imaginer des choses d'un point de vue humain, technologique, voire même des espèces intelligentes qui n'existent pas. Et ça, ça nous permet une création presque infinie. Donc le prix à payer, à mon avis, n'est pas très, très élevé par rapport à la liberté que ça peut nous offrir.
Alors, Laurence, c'est une personne impressionnante aussi. Puisqu'elle est sans doute une des seules, je te passerai mon micro si celui-là ne marche pas. Elle est une des rares auteurs à mêler, par exemple, archéologie et art science, des domaines qu'elle connaît très bien. Elle mélange les mythes hindous et la technologie. Sa multiple culture lui permet des expérimentations assez étonnantes. Alors, c'est quoi l'expérience de Quantica et pourquoi quelque chose d'aussi vaste ? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ?
Quantica, c'est quelque chose de très 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 personnel. C'est un roman que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Ça se passe sur une exoplanète gelée découverte par l'équipe des astronomes de l'Observatoire de Genève. Donc c'est un contexte, c'est un cadre tout à fait crédible et scientifique, puisqu'il a été même construit par les astrophysiciens de l'Observatoire de l'Université de Genève. Puis ensuite, ça délire, en fait. C'est-à-dire on découvre un artefact et une civilisation ancienne, stellaire, qui ont abandonné justement des vestiges, des ruines, et un artefact, un vaisseau sur cette planète, sans rien savoir de cette civilisation. Et c'est l'histoire d'une jeune femme indienne qui a oublié toute sa vie, son passé à partir de son enfance. Il lui est arrivé quelque chose dans l'enfance, elle ne sait pas quoi, c'est un tabou dans sa famille. Et elle s'expatrie, elle aussi, au terme d'un voyage de 17 années et demie. Elle arrive sur cette planète gelée, Gemma. Et là, en fait, elle est hantée comme des souvenirs, mais en fait, ce n'est pas des souvenirs parce qu'elle n'en a pas. C'est comme si c'était des images qui peuplaient sa mémoire vide. Et elle est appelée par une voix, elle ne sait pas exactement ce que c'est, et elle organise une expédition scientifique et elle découvre des vestiges sous la carapace de glace de 4 cm. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir de là, en fait, on explore non seulement l'histoire de ces aventuriers qui descendent à travers cette carapace de glace et qui découvrent ces ruines, donc ils ont un travail d'archéologue, mais aussi on fait une plongée antérieure dans le passé de ce personnage, de cette jeune exobiologiste qui, au contact d'une civilisation extraterrestre autre, qui a une façon de penser complètement différente, une écriture différente, une conception du monde complètement différente, à ce moment-là, elle va devoir puiser dans son passé oublié, le faire remonter à la surface pour trouver un moyen de communiquer avec cette civilisation qui n'utilise pas les mathématiques. Et elle va utiliser la musique, parce qu'elle est d'origine indienne, et elle a appris la musique en tant qu'enfant, c'était une surdouée, une jeune musicienne. Et ça, c'est le début de la trilogie Quantica. Et on va très très loin. On débute sur cette Terre gelée qui n'est pas très très loin de la Terre. C'est une exoplanète, donc une planète extrasolaire. Et ensuite, on va très 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 loin, en fait. Dans son passé, dans cette civilisation qu'on découvre, et aussi aux confins de la galaxie, carrément. Voilà.
Et on va continuer avec Christian Léhourier. Christian Léhourier, dont l'écriture est magnifique et qui met en scène des personnages qu'on a envie de suivre et qui sont vraiment vivants. Mais il me semble que les vrais héros du cycle de l'Hammer, ce sont les sociétés finalement. Et la dimension géopolitique à laquelle ça permet de réfléchir. Alors, est-ce que c'est plus intéressant de réinventer le monde pour parler de géopolitique ? Quel était le projet ?
Oui, effectivement, on pourrait. Le cycle est fondé sur l'idée que une civilisation voyage à travers l'espace et rencontre des humanités différentes avec des organisations, des morales, des conceptions du monde différentes. Effectivement, ça existe sur Terre, hein, puisqu'on pourrait faire de l'ethnologie. Mais bon, par facilité, je préfère inventer. Donc je m'invente des sociétés. En plus, quand je dis par facilité, c'est vrai aussi dans la mesure où Le roman permet de décrire une société entière dans son organisation sans rentrer dans les détails, des détails trop compliqués. Donc on pose les grands traits qui nous ramènent évidemment, parce que c'est le but de l'opération, à notre propre organisation, c'est-à-dire nous fonctionnons tous sur des présupposés, sur des préjugés qu'on ne remet pas en cause. Donc si on est face à l'autre, c'est-à-dire si on est face à une société qui n'a pas les mêmes présupposés, ça ébranle les nôtres forcément. Et ça nous amène à nous interroger sur ce qu'on croit vrai.
On va continuer avec Pierre Bordage. Alors, chacun de tes space opéras est une vaste fresque, un cadre d'une grande ampleur. Comment les mets-tu en place? Quel est ton plaisir par rapport à ce principe du space opéra?
Déjà, je ne les mets pas en place. Donc, c'est eux qui se mettent en place à travers moi. Je ne maîtrise pas grand-chose. Si je fais du space opéra, je pense que c'est d'abord et avant tout par un effet particulier qu'on appelle l'émerveillement. Je pense que c'est le refuge du merveilleux dans la science-fiction. Les anticipations étant beaucoup plus anxiogènes que le space opéra, qui reste le domaine du merveilleux par excellence, puisqu'évidemment, pour l'instant, comme disait Victor, on envisage de coloniser Mars, donc on est loin d'être sorti de notre système solaire. Donc l'auteur, lui, a ce privilège ou cette facilité de sortir du système solaire et de créer des mondes qui n'existent pas. Par exemple, là où vous parliez tout à l'heure de Gigante avec Alain Grousset, c'est une planète qui n'est théoriquement impossible parce qu'elle est 18 000 fois plus grosse que la Terre, elle devrait s'effondrer sur elle-même en permanence, mais c'est une exception. Et de toute façon, personne n'est venu nous contredire pour l'instant, donc tout va bien. Et voilà, c'est ce qui veut dire qu'on a quand même une très grande liberté. C'est vrai qu'il y a ces espèces de briques de réel dont parle Loïc, qui doivent être mises en place pour donner un effet de réel au space opéra. Partant de là, on a toute liberté, et cette liberté-là provoque cet émerveillement dont moi j'ai besoin en tant qu'à la fois lecteur et à la fois en tant qu'auteur pour créer cet effet particulier au genre qui s'appelle le vertige. C'est-à-dire qu'en quelques pages, on va être décollé du réel et on va faire un magnifique voyage, au sens des voyages extraordinaires dont parlait Jules Verne. Donc ça, c'est déjà le premier effet qui est pour moi très très important. Et en ce sens-là, je vais renforcer mon cheval de bataille d'hier, parce qu'il est encore chaud. Ça se rapproche pas mal des archétypes de fantasy, à mon avis. Le space opéra, c'est probablement le genre qui est le plus proche de la fantasy par les structures qui sont mises en place, souvent. Même si les mécanismes ne sont pas forcément les mêmes. Et après, ce que disait Christian est juste aussi, ça nous permet de réfléchir sur nos civilisations à nous. Donc c'est aussi un espace de réflexion, mais ça vient en second temps, je pense. Et d'ailleurs, dans le space opéra, je retrouve cette espèce de récit, d'obligation du récit propre aux mythologies. En fait, on rigole pas du tout. C'est du premier degré, quoi. Sinon, on a l'impression que c'est tellement tendu sur un fil que le moindre dérapage, ça pourrait faire sortir le lecteur du suspension of disbelief, ce mot qui veut rien dire, mais on doit l'employer à un moment ou à un autre dans la conversation. Donc on n'a pas le droit de le faire sortir. Donc il faut toujours le tenir par une sorte de premier degré qui est l'obligation de récit. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas personnellement. Ce qui oblige à une rigueur. J'ai l'impression que plus on part loin dans l'imaginaire et plus on veut créer cet effet d'émerveillement, et plus il y a une rigueur qui est exigée pour l'auteur, parce que c'est une construction purement imaginaire de laquelle le lecteur peut sortir à toute vitesse et très facilement, à la vitesse de la lumière même des fois. Et c'est très étonnant, voire à la vitesse de la pensée, c'est peut-être encore plus rapide. Mais voilà, donc c'est à la fois une grande rigueur, et c'est ce que Loïc a tout à fait raison, c'est à la fois une grande rigueur et une infinie liberté. Et je pense que cette liberté, elle est encore plus extraordinaire quand il y a la rigueur au début, parce que la rigueur permet au lecteur simplement de s'embarquer dans le récit.
Alors, la forme de rigueur qui est demandée par le space opéra, moi je trouve ça magnifique de dire que c'est la partie la plus merveilleuse de la science-fiction et peut-être qui se rapproche le plus de la fantasy. N'empêche que quand on a des vaisseaux spatiaux, qu'il faut se déplacer sur des années-lumière, qu'il faut faire vivre des humains dans des conditions qui sont assez différentes de celles de la Terre et qu'il faut disposer d'une technologie extrêmement avancée. Il faut trouver comment mettre ça en place et le faire d'une manière qui embarque le lecteur, justement, comme tu disais, ou comme disait Loïc, sans que ça ait l'air complètement parachuté. Donc ça, c'est un travail. J'ai envie de vous demander un peu à tous comment vous faites pour intégrer ça dans vos récits. Est-ce que vous vous contentez de dire ça existe, on voyage 40 fois plus vite que la lumière, ou est-ce que vous travaillez dessus pour l'expliquer et rendre l'univers crédible? Tu voulais commencer tout de suite, Pierre?
Ah bah, si tu veux.
T'as le micro dans la main, donc.
Ouais, bon, profitons-en vite, parce que je l'aurai peut-être plus après. Bon, effectivement, moi je me contente de me dire ça va 40 fois plus vite que la lumière, et si vous n'êtes pas content, bah, essayez de trouver un vaisseau qui va 50 fois plus vite que la lumière. Parce que je ne vois pas comment je pourrais donner une explication qui n'existe pas. Alors je balance des trucs comme les sauts quantiques. Toujours bien la quantique. Physique quantique, quand vous êtes dans la merde, c'est un truc assez sympathique. Ou alors vous passez par des trous de verre, ce qui change des trous de nez, mais voilà, c'est encore autre chose. Donc il n'y a pas d'explication possible, donc je ne cherche pas... Si vous avez un récit qui se passe sur la Terre et que le type prend sa bagnole, vous ne commencez pas à expliquer le moteur de la voiture, parce que sinon on va perdre beaucoup de temps et ça ne va intéresser pas grand monde. Éventuellement les lecteurs mécaniciens, mais ça c'est autre chose. Et donc je ne vois pas pourquoi je passerais mon temps à expliquer les moteurs de vaisseau. C'est simplement un pacte que effectivement on comprend avec le lecteur en disant ben voilà, le vaisseau, grâce à une technologie quantique, voyage 40 fois plus vite que la lumière et ça nous permet de franchir des distances énormes, sinon on passerait notre temps dans les voyages. Et ce ne serait que des voyages génération, des vaisseaux génération, parce que quand il y a des centaines de lumière en jeu, ben voilà, c'est que si on avance à 30 000 km heure, eh ben, il vous faut des siècles et des siècles pour aller par là au bout des choses. Et puis après, ça devient des récits, et il y a des récits propres sur les voyages, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc oui, c'est de dire au lecteur, voilà, on a ce type de fonctionnement, ce type de vitesse, ce qui permet d'explorer l'univers, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'explorer l'univers, peu importe comment. Dans Les Guerriers du Silence, les gens voyagent sur la force de la pensée, ce qui n'est pas une notion scientifique très connue, mais qui viendra peut-être un jour, j'espère. Voilà, et donc j'essaie de rendre plus crédible dans le mouvement, dans l'organisation sociale, dans la définition du personnage, parce que je pense que dans l'espèce opéra, c'est comme dans la fantasy, je trouve ça un autre point commun, c'est l'importance des personnages. Les personnages deviennent de plus en plus importants, et les réactions humaines sont de plus en plus importantes. Plus vous éloignez l'humain de son nid d'origine, et plus ses réactions sont intéressantes à observer. C'est ça qui me passionne.
Oui, en fait, pour rester dans le même thème, moi, juste pour compléter, parce que l'explication était suffisamment convaincante. Effectivement, la science-fiction, c'est un peu un genre codé, c'est-à-dire que on a besoin de la complicité du lecteur, et lorsqu'on dit qu'un vaisseau spatial passe dans le subespace, bon, le lecteur comprend ce qu'on veut dire. Il voyage très vite et on va s'épargner effectivement d'avoir à passer plusieurs générations dans le vaisseau. Donc la science-fiction finalement n'est ni très scientifique ni très technologique dans ce qu'elle décrit. Elle l'est davantage dans sa méthode, c'est-à-dire que effectivement, on a parlé de la rigueur, c'est-à-dire on part d'une hypothèse, et à partir du moment où on a posé l'hypothèse, il faut surtout pas sortir de la logique de cette hypothèse. En cela, c'est une démarche scientifique. Mais technologiquement, effectivement, alors on peut effectivement avoir envie d'utiliser les limites de la relativité en disant on ne peut pas aller plus vite que la lumière, donc ça va prendre beaucoup de temps et ça va faire partie du récit. On s'en affranchit, ou on fait comme moi dans le cycle de Landmeur, c'est-à-dire on rapproche les planètes, comme ça, on est dans un univers relativiste, mais quand les planètes sont relativement proches, les étoiles sont relativement proches les unes des autres, bon, ça prend du temps. Mais pas plus d'un siècle ou deux, quoi. Donc, voilà.
Je suis sûre qu'on a au moins une auteure de hard science à cette table qui a envie de réagir. Ça ne te fait pas peur, toi, d'expliquer la technologie?
Non. Enfin, disons que j'ai situé une intrigue sur une exoplanète, donc une planète extrasolaire, qui est assez proche de la Terre, donc je l'ai inventée, c'est-à-dire c'est la plus proche qu'on connaisse, c'est Proxima du Centaure, Alpha du Centaure. Là, j'en ai inventé une à 6,5 années-lumière, Et limite passablement de temps pour y aller. Mais en fait, c'est pas le but du bouquin, parce que quand l'histoire commence, on y est déjà. C'est-à-dire que ces colons se sont installés. Ils ont utilisé une technique non relativiste, hein, du fait que la planète n'est pas située dans des contrées ultra lointaines. Par contre, ça change, c'est-à-dire une fois qu'on est sur ce monde. Donc c'est vrai que le cadre est assez crédible. J'ai bossé avec 2-3 astrophysiciens, j'ai été les rencontrer, qui m'expliquent un peu. Je voulais une planète en glaciation globale, donc je voulais un peu savoir comment ça fonctionnait. Je voulais connaître qu'est-ce que ça impliquait d'être hors de la zone habitable, dans la zone habitable, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes assez techniques pour créer mon monde, pour qu'il soit un peu crédible. Mais une fois qu'on y est, après il se passe des choses qui sont plus du tout du domaine du crédible. Donc en fait on va beaucoup plus loin, on découvre une civilisation qui marche en fait d'une planète à l'autre, en fait par une technologie aussi inspirée des trous de ver. Enfin c'est pas directement ça, mais bon. Mais c'est vrai que la base est assez crédible, mais pour moi c'est un tremplin pour rebondir enfin, dans les autres tomes, surtout dans le tome 3 en fait, c'est très très différent. Et c'est pour ça que je voulais un premier tome très scientifique avec des chercheurs qui expliquent leur technologie, qui sont vraiment dans leur monde très scientifique, etc. Et puis ensuite, plus on avance dans la série, plus on se rapproche d'une forme de philosophie. En fait, on est devant une incompréhension justement. On n'arrive pas à expliquer les phénomènes par la science. Du coup, on se rapproche de la poésie, du mythe, de la philosophie. Et c'est pour ça que mon personnage d'origine indienne intervient et a une autre explication à donner des choses et de la façon dont les choses fonctionnent, en relation avec cette civilisation qui a une pensée non rationnelle et complètement non scientifique. Donc on s'éloigne de la science. On commence par la science, c'est pour ça que c'est très scientifique au début, puis graduellement, plus on avance dans la trilogie, plus on s'éloigne de la pensée scientifique.
Loïc, on avait commencé à en discuter avant cette table ronde. Hein. C'est toi qui avais lancé cette question, justement, qu'il s'agissait d'une difficulté particulière en science-fiction de construire un univers crédible par rapport à nos connaissances, à nous, ce qui impliquait quand même d'expliquer un peu des choses, mais sans que ça devienne pesant. Comment tu gères ça ?
Déjà, je suis assez d'accord avec les trois personnes qui sont intervenues avant moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas 150 000 solutions à un moment donné. Il y a un contrat, il y a des codes, en effet, qui sont des codes de la science-fiction, du space opéra en particulier. Donc, soit on part, comme dit Pierre, d'un postulat qu'on voyage 40 fois plus vite que la lumière et c'est comme ça. Et ça pose pas de soucis particuliers, puisqu'en général, le lecteur n'est pas là, encore une fois. J'aime bien l'exemple de la voiture, parce qu'il n'est pas là pour ouvrir le capot et puis avoir 20 pages pour expliquer comment fonctionne un moteur de voiture ou un moteur à combustion. Donc ça, c'est en effet ce qui est choisi. On a aussi bon, tout ce qui est trous de ver ou saut ou des choses comme ça. On a tout ce qui appelle, j'ai envie de dire, plus à l'instantané. Donc ça peut être ce qu'a décrit Pierre avec le voyage par la pensée, ça peut être la magie, ça peut être ce genre de choses. On a ensuite toujours la possibilité de faire appel à ce qui est plus, on va dire, scientifique et a priori réalisable au vu de nos connaissances actuelles. Donc là, c'est soit en effet des voyages très longs, c'est ce que décrit Laurence, mais là on est sur, dans ce qu'elle décrit, on est sur quelque chose où finalement le très long, elle l'a un petit peu rapproché pour justement, à mon avis, elle le dirait mieux que moi, mais pour résoudre cette équation, ou alors avec des voyages qui sont avec des systèmes de cryogénie où les différents intervenants sont endormis pendant des siècles voire des millénaires. Mais encore une fois, je ne suis pas certain, et là je rejoins un petit peu tout le monde, je ne suis pas certain que l'explication en tant que telle soit la priorité numéro un du lecteur. Il faut juste, encore une fois, que ce soit crédible, alors pas au sens scientifique du terme, mais crédible dans l'histoire qui se déroule dans le roman. Moi, personnellement, j'ai fait le choix d'un système de... Dans Loire, c'est un système de nœuds, donc c'est des trous de ver, en vérité, où on franchit le nœud sur une planète et quelque part c'est un passage secret qui fait qu'on se retrouve sur une autre. Alors j'ai fait un choix supplémentaire, c'est d'intégrer en fait ces nœuds plus exactement à l'intrigue, puisque justement c'est des nœuds qui changent de facette, donc qui peuvent amener à un moment donné à un endroit, et puis il y a des changements dans les orientations de ces facettes et ça fait que après différents changements ça peut amener à un autre endroit. Et Bon, après, encore une fois, c'est un contrat comme d'autres. Alors, ce que je me suis dit aussi, c'est que pour ajouter un petit peu à la crédibilité, ou en tout cas pour les personnes qui étaient vraiment intéressées par cet aspect-là, le fonctionnement de ces nœuds est décrit dans une annexe. Donc là, l'annexe, en l'occurrence, à mon avis, intéresse une minorité de lecteurs. Elle est très mathématique. Vous avez des matrices, du calcul matriciel, des choses comme ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, banco. Mais je ne me voyais pas du tout intégrer ces choses-là au cœur du récit. Je ne me voyais pas partir sur 20 pages, enfin, sur même 10 pages d'explication pour dire voilà comment ça fonctionne, ainsi de suite. Parce que, quelque part, ça intéresse encore une fois très peu de monde et surtout, ça casse le récit. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Pierre. C'est-à-dire que ce qui est essentiel dans un roman, et en particulier de space opéra, ce sont les personnages. Donc si vous développez quelque chose sur les personnages, tout d'un coup vous partez dans j'ai envie de dire un délire pseudo-scientifique de 20 pages, je ne suis pas sûr que ça apporte grand chose au récit. Par contre, je suis à peu près certain que ça va vous casser le rythme de votre histoire.
Moi, ce que je retiens et que je trouve extraordinaire, c'est que tu aies eu besoin pour toi au moins d'écrire ces annexes et d'aller jusqu'au bout de la cohérence. Alors, est-ce que c'est un travail qui t'intéresse, toi, Victor, de construire toute cette...
Oui, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais j'ai l'impression, finalement, qu'à chaque fois, c'est l'histoire qui va dicter le degré de technicité ou de détail qu'on veut apporter, quel que soit le livre, que ce soit de la science-fiction ou autre chose. Mais au sein même de la science-fiction, j'aime bien la distinction qu'a faite Pierre entre space opéra et anticipation. Space opéra étant... mené par un besoin d'émerveillement, cette sensation de vertige, c'est ce qui va faire que le lecteur va tourner la page, et peut-être que du coup les éléments techniques sont un peu secondaires. J'ai l'impression que dans l'anticipation, ce qui va être plus de la science-fiction de demain, comme je disais, donc des choses qui peuvent arriver, le moteur de la lecture, ça va plus être l'angoisse, ce futur qui va peut-être arriver demain avec toutes les menaces qu'il porte en lui, davantage encore que l'émerveillement. Et là, il faut peut-être le rendre encore plus réel, montrer que ça peut vraiment... C'est demain matin que ça arrivera et apporter les précisions techniques qui vont faire en sorte que le lecteur y croit et ressente cette angoisse. C'est ce dont j'ai l'impression. Et aussi, pour revenir au parallèle qui a été fait entre la fantasy et le space opéra, une référence que j'ai en tête, que tout le monde a en tête peut-être au cinéma, c'est Star Wars. Pour le space opéra, hein, qui a un peu posé les codes, en tout cas au cinéma. Et c'est vrai, moi, ça me frappe. On parle de princesse, on parle de relations du père au fils, comme dans des récits de fantasy ou comme dans des grands mythes. Donc finalement, c'est ça, ce sont les personnages, comme on disait, et cette sensation d'émerveillement qui font le space opéra, j'ai l'impression. Dans Phobos, qui relève du coup plus de l'anticipation, j'ai fait pas mal de recherches sur la conquête de Mars telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle existera demain, pour apporter ces précisions, parce que Mars finalement est cartographié déjà aujourd'hui pratiquement comme l'est la Terre. On a Google Mars, l'équivalent de Google Earth, donc on peut pas, l'imagination peut pas s'envoler et créer des planètes géantes qui s'effondrent sur elles-mêmes mais qui ne s'effondrent pas en même temps quand on parle de Mars ou de notre système solaire, parce que là il faut vraiment composer avec des données qui existent. C'est aussi peut-être une différence entre space opéra et anticipation.
Ceci dit, Phobos, c'est un début. Hein, il va y avoir toute une suite. J'ai envie de leur lancer une question que rattrapera celui qui veut. Vous inventez des univers merveilleux qu'on a envie de partager avec vous, qui ne sont pas fondamentalement pessimistes, comme on disait, comme l'est habituellement l'anticipation. Donc, a priori, c'est des univers qui vous font rêver. Est-ce que vous dormez dedans? Est-ce que vous y passez beaucoup de temps? Est-ce que vous avez envie de les prolonger? Est-ce que vous en avez rêvé pendant des jours et des jours et des semaines et des années avant de les mettre sur le papier? Quel rapport vous avez avec ces univers et comment vous les investissez? Qui veut répondre?
Bah, je peux répondre en disant que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que... la quasi-totalité des paysages que j'utilise sur mes planètes sont des paysages que j'ai connus, c'est-à-dire qu'on trouve sur Terre, parce que jusqu'à présent, je ne suis pas allé beaucoup plus loin que là. Donc, c'est plus une recomposition de paysages avec des exagérations, avec des recherches d'atmosphères différentes, etc., qu'effectivement... ce que je veux dire, c'est que la la réalité précède le rêve et non pas l'inverse.
Alors moi j'y rêve totalement, je suis complètement immergée dedans. Hein. C'est vraiment, même si je m'inspire de paysages réels, puisque j'ai écrit l'ensemble de la trilogie en montagne, dans un chalet vraiment à 1800 mètres en hiver, pour bien rendre en fait l'état d'esprit du premier tome qui se déroule sur une planète de glace. Mais à part ça, c'est vraiment un univers qui m'habite, c'est-à-dire j'en rêve la nuit, je rêve de mes personnages. Enfin c'est vraiment voilà, et je suis très très triste de le quitter. C'est terrible. Donc il y aura certainement encore un spin-off ou quelque chose comme ça. Voilà. Non, c'est quelque chose qui m'habite et j'ai l'impression d'être chaque personnage, d'avoir vécu la vie de chaque personnage. Pour moi, c'est assez différent. Même si je m'inspire de la réalité, mais vraiment, ça va beaucoup plus loin. Voilà. Et j'aimerais que ça dure éternellement.
Quand j'ai commencé, j'ai constaté qu'effectivement, c'est des univers qui m'imprégnaient énormément, que j'avais du mal à redescendre. Et puis j'ai eu ce qu'on appelle ces trucs gesticulants et braillards qui s'appellent les enfants. Et qui, à 5 heures, réclame un goûter. Et là, c'est terrible pour vous faire descendre directement sur Terre. Donc, il faut faire cette gymnastique en permanence. Et du coup, ayant pris l'habitude de faire cette gymnastique, c'est-à-dire, j'étais dans mes univers, dans le temps de l'écriture, c'était la journée, je ne travaillais jamais le soir, hein, donc uniquement la journée. J'étais immergé dans mes univers, loin, parti dans les univers. Et à 5 heures, je ferme, quoi. Je ferme parce que je sais qu'il y a des contingences terrestres qui m'attendent. Et après, les enfants sont grands, ils réclament plus leur goûter, mais j'ai gardé cette habitude, c'est-à-dire que maintenant, lorsque j'ai fini ma journée d'écriture, je quitte mon univers, je reviens sur Terre, et puis je repars le lendemain matin, je rallume, et je repars le lendemain matin. Voilà. Donc, j'ai pris cette habitude-là, mais je ne rêve pas du tout, et en revanche, je suis très content de quitter l'univers, parce que ça veut dire que je rends mon manuscrit à l'éditeur, c'est la fin. Donc, c'est quelque chose qui est fini. Quand je mets le mot fin, j'ai une sorte de jubilation. Et ce sont les lecteurs qui, eux, sont tellement immergés dans l'univers parfois qu'ils me disent « Vous faites quand la suite ?» Je dis « Mes personnages sont morts depuis longtemps. » »« Oui, mais ça fait rien. Vous faites quand la suite ?» Et donc, voilà, je me rends compte que finalement, c'est les lecteurs qui s'emparent de l'univers et qui s'emparent de cet imaginaire-là pour être habité par cet univers-là. Quoi.
Moi, je suis dedans aussi. Mais c'est comme s'il y avait deux mondes, en fait. Il y a le monde, en effet, très terrestre, très contingence matérielle. Et je confirme, hein, les enfants sont un bon moyen de nous ramener à des choses qui sont vraiment très, très terre-à-terre, comme le goûter, le départ à l'école, ainsi de suite. Maintenant, c'est comme si, en fait, pour moi, en tout cas, si vous aviez deux mondes et vous pouvez passer d'un claquement de doigts d'un monde à un autre. Alors parfois vous le faites volontairement quand vous vous mettez devant votre ordinateur que vous écrivez. Parfois vous le faites involontairement. Donc là je rejoins Laurence. C'est en effet, moi ça m'arrive de rêver de situations où ça se déroule dans le monde dans lequel j'écris mon histoire. Et qui ne semble pas plus irréel que le monde actuel, parfois même moins, quand on voit ce qui se passe. Donc ça, c'est un autre débat. Donc, je pense que, personnellement, moi, je suis vraiment dans ce monde-là. En fait, le déclic, juste mentionner une petite anecdote, parce que je pense que ça rejoint cette question. En fait, le déclic pour moi de me dire, ok, je vais essayer d'écrire, je vais essayer de créer un monde. C'est qu'à un moment donné, je pense que tout le monde dans cette salle le fait, en fait. Alors, à des degrés divers, à des moments divers. Moi, j'ai des souvenirs d'école, en primaire notamment, mais même ensuite, où il y avait de longues phases. Alors, je m'excuse hein, s'il y a des professeurs dans la salle, mais il y a des longues phases d'ennui, parfois. Pas forcément parce que le professeur était mauvais, d'ailleurs. Hein. Ça peut être simplement parce qu'on revoyait pour la 350e fois le même concept. Et en fait, c'est des moments où l'esprit, quelque part, part, s'envole, se raconte des histoires. Alors, soit des histoires dans le monde actuel. En tant qu'enfant, on peut s'imaginer, je dis n'importe quoi, hein, pompier, maîtresse, champion de tennis, ce que vous voulez. Mais aussi, il peut éventuellement franchir un cap et puis s'imaginer faire des choses qui ne sont pas possibles, qui sont dans le domaine, pour le coup, de l'imaginaire. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi au lieu d'y penser de temps en temps, de te plonger là-dedans, consciemment ou inconsciemment, ne pas vraiment, pousser cette création qui était jusqu'alors assez stérile en une création véritable de monde. Et ça a été un petit peu le déclic pour moi, en tout cas.
Bon, en ce qui me concerne, j'ai un rituel d'écriture qui est exactement l'opposé de celui de Pierre, c'est-à-dire que j'écris uniquement la nuit. J'attends que le soleil se couche et là j'allume mon ordinateur et je l'ai...
Bizarrement, on aurait pu le deviner.
Oui. Oui, voilà. Donc, je pense que les rituels d'écriture, c'est quelque chose qui structure beaucoup, hein, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est solitaire et ça demande une motivation particulière. Et je pense que c'est un peu comme les sportifs. Enfin, en tout cas, c'est mon vécu, qui doivent s'entraîner tous les jours pour atteindre leurs objectifs. Et le fait d'avoir comme ça des rendez-vous avec soi-même, c'est ce qui permet d'accoucher notamment sur la longueur d'un roman, du projet qu'on porte en soi. Et pourquoi la nuit ? Bon, bah déjà parce que je dors assez peu, donc ça correspond à ma chronobiologie, entre guillemets. Et aussi, j'ai l'impression que la nuit, les histoires et l'imaginaire s'envolent plus facilement. Une fois encore, en ce qui me concerne, lorsque j'allume mon ordinateur et que tout est silencieux, tout est plongé dans l'obscurité autour de moi, la seule chose qui existe...
Pas comme ici.
Voilà. la seule chose qui existe, ça va être l'histoire que je suis en train de raconter et je retrouve facilement le fil de la nuit précédente. Donc c'est comme ça que ça se passe.
J'avais un rebond par rapport à ce que disait Loïc. C'est que quand j'étais entre 9 et 13 ans au petit séminaire, il y avait messe tous les matins. Et rien de plus ennuyeux qu'une messe à 6 heures du matin. Et donc, je partais beaucoup dans l'imaginaire. Et pour moi, je m'aidais à supporter ce moment qui était un peu difficile en créant des feuilletons, tout simplement. C'est-à-dire que je reprenais l'histoire que j'avais commencée et je la continuais toute l'année comme ça. Donc, je partais dans des grandes fresques dont j'ai plus rien, bien sûr, mais ça a développé... L'ennui crée énormément d'imaginaire, suscite énormément d'imaginaire, je pense.
Oui, mais c'est exactement pareil. À l'école, je m'emmerdais beaucoup. Je m'excuse. Et du coup, au début, ça a commencé par du rêve. Je rêve. Puis très rapidement, en fait, j'ai eu envie de transformer ce rêve en histoire. Donc j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Et ensuite, des petits textes. Voilà. Donc, mais c'était un besoin aussi d'évasion. C'est primordial. Voilà.
Comité d'accueil des extraterrestres.
Oui, on n'est pas dans des conditions propices à la création. Il nous faudrait un peu plus de silence. Je suis un peu troublée en vous écoutant parce que on a l'habitude de penser que le space opéra, c'est d'abord du récit d'aventure. Et finalement, j'ai l'impression que vous nous parlez beaucoup d'immersion dans des univers, dans des mondes que vous imaginez. Alors, j'aimerais bien savoir si c'est d'abord l'aventure, les personnages, le feuilleton, comme disait Pierre, les récits qui créent l'univers au fur et à mesure que l'histoire progresse, et peut-être même qu'on l'écrit, en tout cas dans le cas de Pierre. Ou bien si c'est d'abord l'univers que vous imaginez, et puis après vous y mettez des personnages et il se passe des choses. Comment vous gérez tout ça ?
Non, en fait, en ce qui me concerne, j'ai d'abord une thématique. Je vais traiter de l'amour, je vais traiter de la mort, de la justice. Quel est l'univers, quelle est la société qui va me permettre d'en parler ? Quelle est la caractéristique de ma société qui va me permettre d'en parler ? Par exemple, je parlais de la justice, j'imagine une société complètement arbitraire où chaque individu a sa propre loi. Et pour que ça fonctionne, il faut quelque chose. Bon, il faut qu'au moins les autres puissent deviner sa loi. C'est-à-dire que son nom soit significatif. Voilà, et ça part comme ça. Donc, c'est d'abord le thème que je veux traiter qui va à la fois déterminer... Quand j'ai voulu traiter le thème de la mort, je me suis retrouvé sur une planète, effectivement, une planète glacée aussi. Voilà, parce que dans notre imaginaire, la mort et le froid sont associés. Donc c'est plutôt ce point de départ. Et après, je construis mes personnages adaptés à cet univers.
Alors chez moi, c'est très très différent. C'est tout en même temps. Et c'est un petit peu bordélique comme je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai les personnages qui viennent, la thématique qui vient en même temps, après je fais la recherche en même temps. Il y a des bouts de scène qui viennent, des dialogues qui s'installent. Je dessine les personnages, puis je suis aussi auteur de bande dessinée et dessinatrice. Souvent, je commence par dessiner mes personnages, mais ils n'ont pas leur caractère spécifique. Après, je fais un bout de recherche, etc. Donc, c'est très, très... c'est tout en même temps. Enfin, ça foisonne, ça part dans toutes les directions. Puis, petit à petit, ça structure.
C'est amusant parce qu'on a une question, je crois, assez proche, il y a une année, sur une table ronde ailleurs. Alors, bon, ça va être intéressant parce que je pense qu'on va avoir des réponses assez différentes entre les cinq personnes. Alors, avec Pierre, j'en suis sûr, mais avec les autres également. Personnellement, en fait, alors c'est vrai que les personnages et les mondes viennent un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage qui vient, un monde, et puis ensuite les autres personnages. Par contre, en ce qui me concerne, mais je pense que Pierre décrira sa façon de fonctionner qui est assez opposée, la structure existe. Enfin, au moins pour Loire. Là, je suis en train d'écrire un autre roman où je suis un petit peu moins, j'ai presque envie de dire psychopathe. Je pense que c'est vraiment de circonstance, mais c'est vrai qu'au départ, quand Loire a été écrit, j'avais une vision très claire des différents mondes, du moment à partir duquel ils intervenaient dans l'histoire. J'avais une carte des nœuds qui les liaient. J'avais une idée à un ou deux chapitres près. En l'occurrence, il y en a 71 du nombre de chapitres qui allaient avoir lieu dans le roman. Et alors, c'est peut-être parce que c'est un premier roman que j'ai pas l'expérience de différentes personnes autour de la table, mais j'avais besoin de cette structure parce que j'avais l'impression, peut-être à tort, que si je l'avais pas, j'y arriverais pas. Parce que ce sont des mondes qui sont assez complexes avec une histoire qui se déroule en parallèle au départ sur trois mondes, puis quatre, puis cinq. Et que c'est un livre que j'ai pas forcément écrit chronologiquement, c'est-à-dire que le premier chapitre qui a été écrit, c'est le cinquième en l'occurrence sur le livre, et que j'avais besoin vraiment de cette structure pour savoir où j'allais et savoir où j'allais atterrir. Ce que je savais pour le coup d'une manière à peu près certaine, c'était comment allaient être écrits les derniers chapitres, même si je les ai écrits à la fin, et les jalons par lesquels on allait passer. Alors la différence, c'est que pour Loire, j'avais des jalons qui étaient très proches les uns des autres. Pour le roman que j'écris maintenant, j'ai des jalons qui sont un peu plus libérés et je m'impose peut-être un peu moins, peut-être aussi parce que l'expérience faisant, on se dit qu'on y arrivera plus facilement. Mais là, je pense que, pour le coup, je ne suis pas forcément représentatif, je pense même que je ne le suis pas du tout. Je ne sais pas si Victor ou Pierre.
Oui, j'aimerais bien, moi, demander à Victor, puisqu'on sait qu'il est dans le début d'un cycle. Victor vient d'écrire un roman qui est déjà un roman d'une taille significative. Comment on peut savoir qu'on est au début d'un cycle? Est-ce que ça veut dire qu'on a une idée très claire de l'ensemble du projet et on le bâtit comment?
En ce qui me concerne, ça dépend des livres. Il y a certains livres comme Animal, par exemple, mon précédent, qui n'était pas un cycle au départ, mais j'ai eu une envie d'écrire une suite qui est venue à la fin de la rédaction du premier tome. Donc là, ça n'était pas planifié dès le départ. Et le deuxième tome d'Animal paraîtra à l'automne. En revanche, pour Phobos, dès le départ, je voulais faire un diptyque. Donc j'avais en tête une histoire qui se déclinait, qui se racontait sur deux volets. Et à la manière de Loïc, moi, je prépare pas mal à l'avance, généralement. C'est-à-dire que j'ai les éléments d'univers qui me viennent, des éléments sur les personnages, des éléments d'intrigue et de construction aussi. Donc j'ai jusqu'à 6 mois de travail préparatoire avant d'écrire la première ligne de mon roman. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque je me mets à la rédaction vraiment du roman, c'est là que les personnages vont vraiment commencer à exister et sortir de la page. Et c'est eux qui font la chair du récit finalement. Et souvent, ils vont me conduire à sortir des jalons que j'avais posés, à sortir des rails et à changer complètement toute ma préparation. Parce que à partir du moment où ils existent vraiment, ils ont leur psychologie qui se met en œuvre. J'apprends à les connaître différemment de ce que j'avais envisagé en les regardant un peu à distance sous forme de silhouettes, de fiches de personnages ou autres au niveau du travail préparatoire. Donc c'est mon expérience, donc les personnages me font comme ça se sortir des rails.
Le mot de la fin sera pour Pierre Bordage, mais ouais. Je crois qu'on est... C'est l'occasion de te poser des questions sur un aspect particulier de Gigante que tu as déjà d'ailleurs pratiqué avec d'autres, c'est l'aspect partage d'univers. Pierre est un auteur généreux qui a permis à d'autres auteurs de jouer dans ses univers à lui et qui là a inventé l'univers de Gigante, donc avec Alain Grousset.
Donc, j'ai travaillé avec quelqu'un comme Loïc qui voulait tout savoir à l'avance.
Oui, est-ce que justement ça oblige à être un peu plus structuraliste, à plus cadrer son projet?
J'ai fait semblant pour avoir la paix, tout simplement. En réalité, avec Alain, Alain est un structurant maladif, donc ça veut dire qu'il veut tout savoir à l'avance. Et moi, je déteste tout savoir à l'avance, donc je ne veux rien savoir à l'avance, qui, au niveau fonctionnement, crée un certain nombre de problèmes. Donc on s'est arrangé pour faire un univers ensemble, monter cet univers, cette planète, ses caractéristiques. global, hein, vraiment, et après c'est les personnages qui découvrent la planète. Et alors, par perversité sans doute, je me suis arrangé pour être avant lui. Ce qui fait qu'il dépendait énormément de moi pour son récit, parce que son récit se passe 20 ans après le mien, et que évidemment, normalement je devais écrire mon récit avant le sien, lui devait lire le mien, puis faire le sien, et ça s'est pas passé comme ça, bien sûr ça se passe jamais comme ça, c'est jamais idéal. Donc j'ai écrit le récit, j'étais très en retard, et lui il l'a écrit quasiment en même temps, ce qui fait qu'il il est pas là, hein, ce qui fait qu'il me téléphonait tous les matins pour savoir ce qu'allaient devenir les personnages. Parce qu'il voulait savoir lui, parce que après tout dépend, ça dépendait pour lui des aventures de mes personnages. Et par exemple, il me dit, tu sais que je dois m'occuper du petit-fils dans mon récit, et est-ce que tu envisages que tes personnages vont concevoir ? J'ai dit, ah bah oui, c'est pas faux. il faudrait peut-être que je songe au truc, et donc je les ai fait concevoir dans une scène d'érotisme absolu, sous fond de coucher d'étoiles incroyables. Voilà, c'est ce genre de détails. Et je me suis rendu compte que, oui, il y avait vraiment un fonctionnement très différent. Alors, par exemple, mon prochain roman, là, qui est un space opéra, encore un, qui va paraître chez J'ai lu en octobre, dans la collection Nouveau Millénaire, je suis parti d'une simple idée qui était. Après, j'ai compris d'où me venait l'idée, mais c'est une femme voilée dans un astroport, intégralement voilée, mystérieuse, escortée par un peuple un peu fanatique. Et un autre personnage qui est pilote d'une flottille chargée de défendre l'aéroport contre des attaques de dragons, qu'on appelle des dragons mais ils ne sont pas des dragons, va la voir alors qu'il n'aurait jamais dû la voir. Et ça va lancer toute l'aventure. Je suis parti simplement de cette rencontre-là, improbable, entre deux personnages, pour créer tout l'univers par derrière. Quoi. Je pars toujours comme ça, soit d'un personnage, d'une rencontre. Et donc... ne travaillez pas avec moi si vous êtes structuraliste ou structurant, parce que ça va vous désespérer.
Par contre, lisez-les tous et ça ne vous désespérera pas. Vous allez trouver leur livre à la bulle du livre, éventuellement continuer la discussion. Nous, on est obligés d'arrêter celle-ci. C'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous tous et merci à vous.